L'Afrique, notre Afrique, regorge de matières premières, pétrole, bauxite, bois, uranium, etc. Mais cette richesse est aussi une fragilité, car les économies nationales reposent souvent sur une seule de ces ressources. Alors, l'Afrique reste trop dépendante de ces matières premières, c'est un fait. Comment changer la donne? Quel bilan peut-on tirer des 50 années d'indépendance, des indépendances africaines sur le plan économique? Au regard de ce bilan, êtes-vous optimiste ou pessimiste, messieurs, dames? C'est le grand sujet de ce matin que nous allons développer avec mes invités. Je vais commencer par monsieur Philippe Hugon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Philippe Hugon. Alors vous êtes professeur émérite, membre de l'IRIS. Vous allez nous rappeler ce qu'est l'IRIS.
L'IRIS, c'est un institut de relations internationales stratégiques.
Voilà. Vous avez publié un ouvrage qui a pour titre Les Suds dans la crise. Et vous êtes la bonne personne pour répondre à cette question d'aujourd'hui, puisque vous êtes spécialiste des économies et de la géopolitique de l'Afrique. Mm-hmm. Voilà, j'ai tout dit, je pense.
Tout à fait.
Voilà. Roland Portela, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes consultant, entrepreneur et directeur de Central Business
Leaders.
Leaders, voilà. Donc il faut bien écrire. Hein. Et puis nous allons appeler dans quelques instants Yves Ekwe-Amaizo, qui est à Vienne. Nous attendons vos réactions également sur le site d'Africa numéro 1. Allez dans la catégorie Les Matins de Génie pour nous faire partager vos points de vue. On va marquer une autre petite pause musicale et je donne la parole à mes invités. Maïso, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez en ligne lorsque j'annonçais l'émission. Yves Ekwe-Amaizo, je vous remercie d'être avec nous également aujourd'hui.
Merci.
Vous êtes économiste, consultant international, président du groupe de réflexion Afrologie et vous êtes installé à Vienne en Autriche, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, je vais commencer par vous. On va faire un bilan, justement, de ces 50 années des indépendances africaines sur le plan économique.
Oui. Écoutez, le bilan, il n'est pas très, très réjouissant. Bien sûr que si vous comparez les années 60, 70, où effectivement il y a eu une croissance et que les choses semblaient prendre une bonne direction, on ne pouvait pas trop en vouloir aux dirigeants africains, encore moins peut-être à ceux qui ont laissé ce que vous appelez l'indépendance. À ce propos, j'ai fait un livre où j'ai dit qu'on n'est jamais passé à l'indépendance, mais on est passé de la dépendance à l'interdépendance. Je m'expliquerai peut-être là-dessus un peu plus tard. Et puis la deuxième période, à partir de 70 jusque, disons, l'année 2000, un peu avant, c'était plutôt assez lamentable en termes de croissance économique et plus particulièrement le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant. Et puis il y a eu une sorte de surprise, de prise de conscience autour de 2000 jusque 2008, disons. Là, on se retrouvait quasiment une moyenne de 4-5%, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un redémarrage sérieux qui a eu lieu. On expliquera les raisons tout à l'heure ensemble. Et puis, il y a eu cette crise financière qui a fait chuter en 2009, mais apparemment 2010 se présente plutôt bien. Donc, rapidement, voyant en gros trois grandes périodes, une croissance à peu près intéressante, trois décades pratiquement plutôt très faibles, et puis une relance qui part. Alors, quel est le bilan de tout ceci? La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'inégalités. Il y a eu des richesses qui sont apparues, notamment, puisque votre thème c'est sur les matières premières, on y viendra à partir de ces matières premières. Et il y a eu finalement une grande partie de la population qui n'est toujours pas contente parce qu'elle ne peut pas choisir la direction qu'elle voudrait bien avoir d'abord pour le pays et à travers ses dirigeants. Alors pourquoi tout ceci? C'est que y a une main basse sur ces matières premières qui permettent une certaine forme de richesse. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'appelle les capacités productives. L'Afrique a été, entre guillemets, incapable, durant toute cette période-là, de pouvoir transformer, quelles que soient les richesses qu'elle a pu obtenir, soit des matières premières ou d'ailleurs, en quelque chose de beaucoup plus périn. Et donc, elle n'a pas réussi à faire en sorte que, en fait, l'industrialisation fonctionne.
Quelles en sont les raisons?
Oh, elles sont nombreuses. La première, toute simple, je pense tout simplement qu'il y a, il faut le dire tout aussi ici, une absence peut-être de prise de conscience collective de pouvoir mettre ensemble les richesses africaines pour les populations africaines. Parce que c'est d'abord ça le vrai problème. À partir du moment où la priorité n'est pas sur les populations et que les priorités sont données ailleurs, quand je dis ailleurs, ça peut être des investisseurs étrangers, ça peut être les pouvoirs étrangers, je ne veux pas citer de pays ici, en tout cas ça vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, s'il prend appui sur les dirigeants africains qui ne sont plus des dirigeants pour les populations, mais qui plutôt servent les intérêts d'ailleurs, vous comprenez que le problème devient relativement corsé, pour prendre un mot bien français. Donc, il ne s'agit pas de trouver des boucs émissaires, il s'agit de comprendre le mécanisme pour que les nouveaux 50 ans qui sont devant nous, puisqu'il y a une nouvelle 50 ans devant nous, est-ce qu'on peut modifier ça? Si oui, comment? Et puis, peut-être en allant dans le détail, mais quand on regarde maintenant, il y a quand même 54 pays africains actuellement, le Maroc n'étant pas membre de l'Union africaine, c'est pour ça que vous avez 53, est-ce que certains pays ne s'en sortent pas mieux que d'autres?
Oui, alors justement, quels sont ces pays qui s'en sortent mieux que d'autres et pourquoi?
Le Maroc a été la plus résiliente pour la crise. Je peux vous citer le Cap-Vert, l'île Maurice, qui ont su, pendant ces 30 années difficiles, utiliser de manière intelligente les préférences commerciales avec l'Union européenne. Je peux vous citer un certain nombre de pays comme Botswana, qui sont sortis d'abord des pays moins avancés pour devenir pays intermédiaires, et qui en souffrent d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'ils sont dépendants d'une seule matière première, essentiellement le diamant, mais qui a été très bien géré jusqu'à nouvel ordre, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas seulement un problème simplement d'être dépendant. Le vrai problème, d'ailleurs, j'ai reformulé votre question, j'ai dit que l'Afrique est trop dépendante de ses bailleurs de fonds. C'est ceux-là qui posent problème. Parce que eux ont besoin des matières premières. Et du coup, en ayant besoin des matières premières, ils créent une nouvelle priorité supérieure des dirigeants qui fait que le bien-être des populations est mis en défaut.
Alors, avant que je passe la parole à mes autres invités, j'aimerais que vous nous éclairiez sur certains termes économiques. On dit souvent que l'Afrique affiche un taux de croissance de 3%, 4%. C'est bien tout ça, mais ça ne rejaillit pas sur les populations.
Ben, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, je crois que le professeur Hugon est beaucoup mieux placé que moi. Mais bon, rapidement là-dessus, vous savez, les statistiques sont ce qu'elles sont. On a ça pour le moment. Vous savez, il y a toute une critique actuellement de pouvoir les modifier. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a souhaité des statistiques beaucoup plus intégrées, mais il y a des critiques aussi dessus. C'est toujours difficile, si vous voulez, de récupérer en une ou deux informations l'évolution d'une société, encore moins sur le plan économique. Mais ces statistiques existent et donc on les utilise. La réalité, c'est que c'est vrai, on voit une Afrique en mouvement. Hein, comme on dit, l'Afrique bouge. Simplement, le problème n'est pas simplement de bouger, il faut avoir des objectifs, il faut pouvoir anticiper des difficultés, c'est que encore là, les dirigeants africains ont plutôt failli, et il faut surtout les orienter pour que ça puisse permettre une augmentation quasi générale du pouvoir d'achat. Parce que c'est ça le vrai mot. C'est le problème qui est partout. La France a ce problème aujourd'hui, mais les Africains encore plus. Et donc, comme on ne l'a pas fait comme il faut, ben, le nombre de personnes qui n'ont pas ce pouvoir d'achat et qui sont même en dessous de le minimum requis, l'ONU parle de 2 dollars, des fois même en dessous, écoutez, ça pose problème. Et donc, si cet espace de personnes pauvres se met à augmenter, ou en tout cas ne pas diminuer, d'après les dernières statistiques, alors on a un vrai problème de gouvernance et il va falloir revoir ça en profondeur.
Philippe Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec Yves Ekwueze qui dit que l'Afrique n'est pas dépendante de ses matières premières, mais plutôt de ses bailleurs de fonds?
Ben, elle est dépendante quand même des matières premières parce que celles-ci représentent environ 90% des exportations.
90%.
Plus de 90%. Que dans l'ensemble, la plupart des pays ont des recettes budgétaires qui sont largement assises également sur ces ressources du sol ou ces ressources du sous-sol. Alors, ceci étant, je dirais que la nouveauté qui est apparue, c'est le fait que à partir des années 2000, comme ceci vient d'être appelé, il y a eu une grande convoitise de l'Afrique pour ses matières premières, notamment du sous-sol, c'est-à-dire les produits minéraux et les hydrocarbures, et qu'il y a de plus en plus de partenaires de l'Afrique ou de pays ou de firmes, de conglomérats, qui sont intéressés par les ressources minières et les ressources pétrolières de l'Afrique. Ce sont notamment les conglomérats des pays émergents, et y compris des États-Unis. Donc je dirais que la nouveauté des années du 21e siècle, c'est que l'Afrique a quand même largement diversifié ses partenaires dans le domaine des ressources du sous-sol et du sol.
C'est un point fort.
C'est à la fois, ça donne des possibilités de manœuvre, de renégocier des contrats, ça donne plus évidemment de capacité de choix de la part des pays africains. Ceci étant, on reste dans des relations que l'on peut qualifier de post-coloniales, c'est-à-dire que l'Afrique vis-à-vis des pays émergents n'exporte que des produits
primaires.
Elle n'exporte que des produits primaires non transformés, en contrapartie de contrats que l'on, d'ailleurs, on ne connaît pas toujours, qui sont des accords de troc, soit en termes de bâtiments, travaux publics, soit d'infrastructures, de routes, de chemins de fer, ou d'importation d'un certain nombre de produits manufacturés. Et pour l'instant, l'Afrique n'a pas fondamentalement changé de spécialisation internationale.
J'avais le sentiment, enfin c'est une question que je me pose, Monsieur Hugon, on est à l'ère d'une espèce de reconversion, la biodiversité, l'environnement, peut-être que dans quelques années on va plus forcément utiliser le pétrole comme on l'utilise actuellement. Est-ce que justement cette reconversion pourrait servir à l'Afrique, qu'elle puisse utiliser ses propres ressources pour elle-même, pour se développer elle-même? Est-ce que les pays émergents comme la Chine, l'Inde notamment, sont une menace pour le continent africain?
Alors, effectivement, c'est une opportunité énorme, puisque la grande richesse de l'Afrique, ou une des grandes richesses de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle le capital naturel, c'est sa forêt, ce sont ses ressources naturelles, c'est la diversité de ses écosystèmes, c'est sa biodiversité, et on voit bien qu'aujourd'hui, le mode de développement n'est pas supportable à l'échelle de la planète, le mode de développement des pays industriels est celui qui est mimétique de la part des pays émergents et n'est pas supportable. Donc il est évident qu'on pourrait fonder une nouvelle croissance, qu'on appelle la croissance verte, une économie verte, sur la base de ces ressources à la fois du sol et du sous-sol. Là, il y a des opportunités importantes de l'Afrique. Il y a d'abord la manière dont on peut, par exemple, mobiliser la forêt pour à la fois la sauvegarder et réaliser de l'agroforesterie, c'est-à-dire des nouvelles formes d'agriculture. Il y a la manière dont on peut utiliser, bien entendu, des nouvelles énergies, c'est-à-dire à la fois les éoliennes, le solaire, la géothermie ou un certain nombre d'énergies comme l'hydroélectricité, ou dont l'Afrique a d'énormes possibilités,
potentialités. Potentiel, oui.
Alors, ceci étant, il faut être réaliste, c'est que d'une part, les technologies qui le permettraient, pour l'instant, n'ont pas une totale rentabilité. Donc là, c'est effectivement un pari, notamment des relations avec les émergents, c'est de savoir si il y aura plus facilement accès à ces technologies de la part de l'Inde, de la part de la Chine, de la part du Brésil. C'est possible. C'est possible parce que il faut savoir que même si les pays émergents consomment surtout des énergies fossiles et ne sont pas prêts à avoir des fortes contraintes environnementales, ils font d'énormes efforts dans ces nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment une des opportunités. Ceci étant, si on est réaliste, les énergies de demain, quelles que soient les négociations, seront essentiellement des énergies fossiles. Et donc, ce qui sera quand même demandé par les pays, ça sera le pétrole, ça sera le gaz et ça sera le charbon.
Nous allons prendre Augustin au téléphone. Augustin ?
Oui, Eugénie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, votre invité. Et ce que je voudrais demander, concernant donc le pétrole, par exemple, est-ce que nos dirigeants qui, négocient avec ceux qui viennent nous le soutirer, est-ce que ils ont combien de pourcents, nos dirigeants notre pays a combien de pourcents? Parce que c'est ça là où le problème se pose, c'est là. Parce que si on a au moins 40% de notre pétrole brut, je pense que les Africains auront quand même de quoi vivre. Mais je me demande combien de pourcents que les multinationaux donnent au pays et au gouvernement afin que nous acceptons la donne.
Alors Augustin, je comprends ce que vous voulez dire. Beaucoup d'Africains, les Africains dans leur ensemble, pensent qu'il y a un véritable il y a un faux marchandage, il y a ces contrats léonins qu'il faut revoir, et c'est peut-être cela la base principale du déséquilibre économique et financier entre l'Afrique et les pays occidentaux. Est-ce que ce sont des idées fausses? Est-ce qu'il faut rediscuter tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on a négocié dès les indépendances acquises avec les chefs d'État, parfois choisi, bien souvent choisi par la France, est-ce qu'on a négocié vraiment pas gagnant du tout les accords avec les puissances occidentales, Monsieur Hugo?
Alors, il y a évidemment des contrats léonins. Ceci étant, on les trouve aussi dans le domaine minier et pas simplement dans le domaine pétrolier. On pourrait prendre notamment des contrats récents qui ont été passés avec la Chine de la part de la RDC concernant l'exploitation du cuivre, notamment dans le Katanga. Alors, en ce qui concerne le pétrole, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la fiscalité pétrolière dans les pays africains est plus faible que la moyenne de la fiscalité internationale, notamment que les pays du Moyen-Orient. Alors, il y a deux raisons. Il y a celle qu'invoquent les compagnies pétrolières, à savoir qu'il y a plus d'insécurité, que les risques sont plus importants. Les États africains, est-ce qu'ils sont capables de négocier des contrats ou pas?
C'est la question qu'on se pose. Enfin, un Africain lambda va se dire, mais comment? Enfin, ceux qui nous gouvernent, nos ministres, les consultants comme Iveco Amaïso, je pense que vous connaissez bien ces questions-là. Roland Portela, vous également, vous conseillez souvent des décideurs. Alors comment s'arrange-t-il pour ne pas négocier gagnant-gagnant les ressources qui permettent d'accroître l'économie, de faire accroître la vie des populations? Comment ces personnes s'arrangent?
Ben, je pense que pour un tel sujet, il faut parler franc. C'est une question géostratégique. On est dans l'Afrique des convoitises, c'est-à-dire que la question des matières premières, c'est une question des convoitises, c'est un enjeu de puissance avant tout, malheureusement pour les populations, d'autant plus que dans certains États africains, même s'il y a eu des efforts de gouvernance qui ont été faits, il n'y a pas de transparence. Alors comment voulez-vous négocier, même si les contrats sont léonins, avec des États qui n'ont pas la maîtrise ni technologique ni financière de ces matières premières? C'est ça le problème. C'est-à-dire que si aujourd'hui un conglomérat vient dire qu'il y a telle mine vaut tant, il y a un potentiel de tant, comment les États africains peuvent avoir la certitude que ce que la multinationale lui dit est la vérité? Donc ça pose un problème fondamental. Donc il y a un problème d'intelligence stratégique, il y a un problème de technologie, de surveillance. Beaucoup d'États africains n'ont pas encore des satellites parce que les gisements, comment on les contrôle, comment on peut avoir un aperçu, c'est par des géolocalisations.
Oui, mais tous ces Africains qui vont faire des études à l'étranger,
alors, c'est un problème,
qui se forment, devraient mettre leurs compétences justement au service de leur pays.
Enfin, mais qui le veut? Est-ce que les États africains, est-ce que les dirigeants africains ont intérêt à ce qu'il y ait des ingénieurs performants justement dans la détection des minerais dans leur propre pays.
On va y revenir. Les choses commencent à être pointues. Nous parlons de l'Afrique qui reste malheureusement trop dépendante de ses matières premières. Pour Yves Ekwueamaïso, l'Afrique reste dépendante de ses bailleurs de fonds. Alors, j'ai la réaction d'un auditeur que je vais vous lire, une réaction intéressante. Il s'appelle Guy. Il réside en Allemagne à l'aube du 50e des indépendances des pays africains. Je pense que ces indépendances auront un sens si l'Afrique arrivait à être indépendante de ses matières premières, en ce sens qu'elle décide sans contrainte de la production, de la commercialisation et de sa transformation afin d'en faire profiter aux populations africaines, ce qui n'est pas le cas depuis 50 ans. Je dirais que l'Afrique est victime de ses richesses naturelles et celles-ci attisent les convoitises des Occidentaux sous la forme de multinationales qui financent des guerres et soutiennent des régimes totalitaires afin de prendre les richesses quasi gratuites en donnant un petit rien à ses gouvernants. Tant que l'Afrique ne dira pas non, elle restera un nourrisson, même à 50 ans. Mon pays, la RDC, a perdu plus de 6 millions d'âmes, rapport officiel de l'ONU, suite à ces convoitises, mais on ferme l'œil et on n'en parle même pas. Je pense qu'on est dans le sujet. Roland Portela, je vous redonne la parole.
Oui, je pense qu'on est dans le sujet. Alors, puisque ce monsieur parlait de la RDC, alors en RDC, actuellement, on a défini un plan, l'État de RDC avec les Chinois ont défini un plan sur le cuivre, je crois, et le cobalt. 9 milliards de dollars d'investissement dont la production doit commencer en principe en 2014. Ce que l'on constate, justement, toujours problème de gouvernance, c'est que qui a été partie prenante de ce projet? L'État, les dirigeants politiques et les multinationales chinoises. On n'a pas vu les entrepreneurs locaux se lever.
Être associés
au projet, et encore moins les populations.
Ouais, mais est-ce qu'il y en a, des entrepreneurs locaux?
Ben justement, ça se prépare tout cela. On a parlé de 50 ans d'indépendance. Pendant les 50 ans, on aurait dû former. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que nous avons des ingénieurs, etc. Nous les avons. Mais maintenant, quand il faut les former dans des actes qui sont stratégiques, là maintenant, on les laisse tomber. Parce que justement, on est dans des projets, dans des matières de convoitise. Une autre anecdote encore. Il n'y a pas longtemps, au mois de novembre, Ali Ben Bongo dit, voilà, pour le commerce du bois, je ne veux plus qu'on exporte du bois simplement par grume. Je veux qu'il y ait de la transformation. Levée de bouclier.
Sur place.
Oui. Levée de bouclier.
De
la part des Occidentaux, premièrement. Ils ont dit, pourquoi voulez-vous transformer? Il a dit, mais il faut que je crée de la valeur ajoutée. Il faut que j'ai des industries locales qui puissent justement faire de la transformation de bois. Ce qui est tout à fait logique. Et on lui dit que oui, les Gabonais ne sont pas préparés, etc. C'est vrai qu'il aurait dû peut-être réfléchir à une stratégie de développement dans ce sens-là. Mais je pense que c'est quand même porteur. Au Cameroun encore, il y a en 2008, l'État a exigé dans les mines qu'il y ait au moins 15% du commerce des mines et aussi de la transformation, 15% qui soient réservés aux locaux pour créer justement un tissu d'industrie locale avec de la valeur ajoutée. Je pense que ce sont des signes quand même positifs, mais il faut aller plus loin et il faut surtout associer les différents acteurs à ces projets de développement-là.
Amos au téléphone, allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour.
Et je salue aussi tous ceux qui sont là. Mais mon intervention concernait justement à cette intervention que vient de faire ce dernier interlocuteur.
Monsieur Portela, Roland.
Voilà, la formation des cadres africains. C'est ça le problème. Et puis tous ceux qui sont formés, les hommes politiques qui sont en place, sont presque en général des enseignants d'université et tout ça, qui n'ont pas la technique de la maîtrise de l'économie normalement sur place, sur le terrain, je veux dire. Parce que, par exemple, ceux qui ont fait des études commerciales savent à peu près ce qui se passe dans le monde entier, quelles que soient les sociétés établies dans ces pays. Mais en Afrique, ceux-là, on les met pas ensemble avec les hommes politiques pour pouvoir travailler. Par exemple, un bon commercial, un bon monsieur diplômé, tout avec expérience, pouvait être ministre, par exemple, du commerce ou de l'économie même, pourquoi pas, du budget, pour prévoir toutes ces choses-là. En Afrique, on évite de prendre des hommes d'affaires qui sont bien doués dans toutes ces négociations pour pouvoir mener à bon port les économies africaines. C'est là qu'il y a le problème. Le problème est politique. Et politique, c'est pas parce qu'il n'y a pas de compétences en Afrique. il y a des compétences. Voyez-vous, c'est là le gros problème de l'Afrique.
Merci Amos. Ivakoué Amaïso, vous accompagnez souvent, vous êtes consultant, vous accompagnez souvent les décideurs africains lors de grandes rencontres internationales, dans le cadre de l'OMC par exemple. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Alors, je vais parler de l'OMC peut-être dans deux minutes. Je crois qu'il faut vous dire quelque chose de très simple. Quand vous dites qu'il y a des contrats léonins, soyons très précis. On a parlé du Congo, on a parlé d'un certain nombre de pays. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins deux contrats. Il y a le contrat officiel, qui généralement apparaît, bien sûr, léonin, dans lequel il y a ce problème de transparence.
Qui apparaît léonin?
Ben bien sûr, par définition. Si on vous dit qu'une mine de cuivre vaut 1 million et que vous savez que ça vaut 100, il y a bien un problème. Donc, c'est ce que nous disons, l'information générale distribuée est ce qui apparaît. Et donc, on a souvent l'impression que voilà, tel gouvernement ou tel chef d'État responsable a signé du n'importe quoi. Et du coup, nous partons sur tout le problème de la formation qui est d'ailleurs réel. Il y a un deuxième contrat qui, lui, n'est pas visible. C'est très important de le dire. D'où tout le problème de la transparence qui a été soulevé par M. Porter là, tout à l'heure. Et celui-là, bah écoutez, les sommes sont là, avec beaucoup de zéros derrière, et on ne sait pas d'ailleurs où va cet argent-là. Donc, ce n'est pas que les choses ont fondamentalement changé sur le plan de la corruption, c'est qu'elles ont pris des formes beaucoup plus structurées, modernisées, et par définition, on ne souhaite pas voir dans ces guillemets deuxième contrat-là des gens qui viendraient faire de la transparence, dire la vérité, des consultants, des experts, des ingénieurs sérieux. Donc, la plupart du temps, on est simplement exclu de ces discussions.
Alors, c'est pour ça qu'on est dans de plus en plus, c'est le vœu des populations africaines, dans un mode de gouvernance où il y a une véritable transparence, en fait.
Bien sûr.
Que si les populations accompagnent tous les projets du pays, si les populations ont un droit de regard, la société civile, bien sûr, a un droit de regard sur la marche des affaires économiques, je pense que les choses iraient mieux.
Oui, mais attendez, tout ça, c'est des jolis mots.
C'est des jolis mots, d'accord.
Oui, il faut rester pratique. Ce dont vous parlez, je partage, hein, mais appelons ça mieux. Appelons ça, ce sont des contre-pouvoirs. Il vous faut des contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs ne se limitent pas à la société civile. C'est ça que je veux vous dire. Ces contre-pouvoirs, c'est tout un système à mettre en place. Ça commence depuis les contre-pouvoirs et les séparations de pouvoirs, hein, juridiques, armées, l'exécutif et parlement. Bien sûr, ça vient à l'université, ça vient dans les médias aussi. Il y a des médias d'État qui vous racontent des casques. Donc, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et quand on vient dans le domaine des dossiers, puisqu'on parle justement des matières premières, le contre-pouvoir de la société civile, elle est relativement faible. Vous avez beau crier, et je reviens à votre OMC dans la rue, et faire des manifs à Suisse ou ailleurs, vous avez bien vu que les textes de l'OMC, écoutez, ils avancent. Quand est-ce qu'elle a commencé à vraiment à bloquer, ou en tout cas que les gens sont devenus, entre guillemets, plus sérieux pour défendre le côté africain? Mais c'est quand l'essentiel des pays émergents, Brésil, Inde, Chine et autres, qui sont d'ailleurs membres, qui ont commencé à dire, écoutez, ça ne se passera plus comme ça, et qu'ils ont décidé
de soutenir
la capacité productive.
Ces pays qui sont émergents ont été au même niveau que l'Afrique. Comment s'en sont-ils sortis? Est-ce qu'on peut se baser sur leur expérience pour avancer comme eux?
Deux choses très simples. Ils ont réussi à comprendre à un moment donné qu'il faut mettre tout un système de gens qui soutiennent les capacités productives. Il faut décider à un moment donné que la valeur ajoutée créée se fera dans le pays. L'exemple a été donné tout à l'heure du Gabon. C'est très bien de prendre la décision politique, mais ça ne sert strictement à rien sur le fond si on ne fait pas une analyse profonde des rapports de force existants. La preuve, c'est qu'il a eu tous les entrepreneurs français installés au Gabon contre lui. Et du coup, il se trouve dans une situation assez complexe où ces Français vont aller voir d'autres pouvoirs politiques qui referont d'autres pressions sur lui, et à moyen terme, il risque de céder, ou en tout cas de céder partiellement. C'est ça le vrai problème. Et pour le faire, il faut que ces contre-pouvoirs aient été mis en place, et c'est ce que dit M. Portela, il faut que l'ensemble des institutions, des individus qui existent aujourd'hui, votre interlocuteur qui a parlé de commercial, il a entièrement raison. Ces gens existent, il faut seulement les mettre en position qu'ils puissent avoir une parole au dossier. Seulement, pour le moment, si vous n'êtes pas, entre guillemets, clanique dans le clan d'un tel, dans la politique d'un tel, dans le parti politique d'un tel, vous êtes exclu. Et j'ai même fait un bouquin là-dessus, qu'il y a un grand problème africain qu'on appelle l'autocensure des Africains qui freine les alternatives. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de neutralité coupable. On a beau dire, d'un côté, je joue le jeu, entre guillemets, de l'ex-colonie, tant mieux, et un autre qui vient et qui dit, écoutez, non, ça suffit, on va transformer, très bien, Mais dans les deux cas, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Et ne bougent pas pourquoi ? Parce que c'est l'ensemble de ce contre-pouvoir, il fonctionne pas si bien que ça. Alors bien sûr, maintenant il faut aller au niveau des détails des pays. Mmh. Vous me parlez de Maurice, ça marche beaucoup beaucoup mieux que vous me parlez, je vais pas citer un autre pays pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Mmh. Alors, un deuxième point qui est lié à ça, c'est aussi ce que j'appelle les marges budgétaires. C'est-à-dire qu'un État a plus de pouvoir, entre guillemets, d'indépendance, si on veut utiliser ce mot, si, bien sûr, ces matières premières vendues lui permettent d'avoir ce que j'appelle une marge budgétaire. Mmh. L'Algérie, la Libye, pour prendre ces deux exemples, sont relativement bien placées. Même le Gabon, d'ailleurs, à la rigueur. Mmh. Par contre, il y a un vrai problème quand vous rentrez dans la façon dont est distribué cet argent après. Voilà, et s'il est distribué plus vers l'extérieur, cas du Nigeria, Guinée, Kwato, Congo et autres, ou Tchad, voilà, vous constatez que ces gens-là auront une priorité supérieure à ce que veut ces contre-pouvoirs, voire même la société civile dont vous parlez. Et là, ça devient beaucoup plus complexe, parce que là, vous devez rentrer dans une forme de jeu politique, et si vous ne voulez pas jouer le jeu, pour la plupart du temps, ça signifie que vous n'avez pas d'emploi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, s'il n'y a pas d'emploi, soit vous rentrez au pays et vous vous contentez de misère, soit vous restez à l'extérieur, ce qui explique d'ailleurs une masse importante de la diaspora intellectuelle africaine à l'extérieur, et qui va trouver, écoutez, à s'en sortir mieux. Et d'ailleurs, cette masse quitte de plus en plus l'Europe vers les États-Unis ou les pays anglophones, où les opportunités sont plus grandes. Je vous assure que vous avez 10 ans, 15 ans d'expérience aux États-Unis après avoir une formation à peu près correcte, vous êtes patron de telle ou telle structure, pour ne pas dire des sociétés. Faites ça en Europe, vous allez voir que la plupart des gens sont en train de tourner en rond et sont encore en train de faire du gardiennage ici et là. Donc la société européenne en tant que n'intègre fondamentalement pas. Alors tout ce débat sur l'identité nationale, c'est beau, c'est bien gentil, mais la réalité, elle est bien là, palpable. On a des intellectuels qui n'ont pas de job et à qui on refuse. Comme dit, sont-ils d'avoir des doctorats, à ne pas avoir un emploi dans les universités, comme professeur, de ne pas travailler comme entrepreneur dans ce pays que vous avez, la France ou l'Europe en général, alors que vous n'avez pas ce problème quand je vais du côté États-Unis, j'en reviens. Et je vous assure, c'est quand même différent.
Ben, vous êtes là ?
Allô, je suis là.
Bonjour Ben, je vous écoute.
Bonjour. Alors, j'écoute tout ça, je suis content et je suis d'accord avec les interventions de l'intervenant qui vient de juste arrêter. Mais je pense que le grand problème, tout ce qu'on est en train de dire, c'est les choses qu'on fait. Le grand problème en Afrique, c'est la séparation du pouvoir. La séparation de pouvoir, pouvoir politique, pouvoir judiciaire, pouvoir militaire. Tant qu'on ne règle pas ces problèmes-là de façon formelle, avoir des textes et puis les mettre en application, que le président ne soit pas celui qui contrôle la justice comme il veut, qui contrôle l'armée comme il veut, de sorte que la justice, elle balade les jugements comme elle veut, les magistrats ont décidément d'être un peu violents, des magistrats corrompus à la solde du pouvoir. Ensuite, une armée qui est prête à mater systématiquement toute contradiction, on va perdre le temps à faire tous ces discours, on n'avancera à rien du tout. Je pense que la clé du problème, c'est tout ça. Séparation du pouvoir, laisser les contre-pouvoirs faire leur travail. Et que ce soit inscrit dans les textes fondamentaux et que les gens les respectent à la lettre.
Merci Ben. Alors Ben disait que pour sortir de cette situation de dépendance, il faut qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. Philippe Hugon, qu'est-ce que vous répondez ?
Oui, ça me paraît évident. La véritable démocratie, au sens de Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs et c'est le jeu des contre-pouvoirs. Mmh. Alors c'est d'abord l'indépendance de la justice, c'est le rôle du Parlement qui est un contrepoids à l'exécutif, c'est le rôle des médias qui sont dans la transparence de l'information et dans la formation citoyenne, c'est tout un ensemble de facteurs. Et tout à l'heure, on a parlé des pays qui avaient le mieux réussi, il se trouve, on n'a pas parlé de l'Afrique du Sud, qui est aussi une démocratie au niveau de la séparation des pouvoirs, c'est l'île Maurice, c'est le Botswana, où il y a des jeux de contre-pouvoirs et de transparence, notamment par rapport à l'utilisation des rentes. Alors, notamment le diamant au Botswana. Donc, c'est un enjeu absolument prioritaire. Je dirais qu'il n'y aura pas de progrès par rapport à l'utilisation des matières premières du sol ou du sous-sol s'il n'y a pas ce jeu de contre-pouvoir. Et donc, c'est une lutte citoyenne. Ça passe aussi, évidemment, en partie par la société civile. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est beaucoup plus un enjeu politique que simplement un enjeu de la société civile. Il y a quand même d'autres éléments que l'on peut rappeler, mais qui viennent ensuite, c'est les initiatives prises internationalement pour qu'il y ait plus de transparence. C'est le publier ce que vous payez. Mmh. C'est par exemple l'initiative de Kimberley pour la transparence des filières de diamants. C'est l'initiative de transparence des industries extractives qui avance beaucoup moins, mais qui quand même est un progrès pour que les différents opérateurs, que ça soit les firmes, que ça soit les États consommateurs, que ça soit les États producteurs, que ça soit les différents acteurs, puissent avoir une information sur le prix, sur la valeur ajoutée, sur les contrats. Ceci est extrêmement important. Mais il est certain que cette action de la communauté internationale n'avance pas au rythme auquel il devrait avancer vis-à-vis de l'Afrique. Et puis alors, il y a d'autres éléments qu'il faut quand même rappeler. C'est ce qui est, je dirais, du contrôle de la communauté internationale. On a parlé tout à l'heure du contrat léonin de la RDC, notamment au Katanga, concernant le cuivre et le cobalt. Il y a eu quand même... La communauté internationale, dans le cas présent par l'intervention du FMI, a fait que ce contrat de 9 milliards de dollars a été ramené à 6 milliards de dollars. Il faut donc aussi un contrôle. L'idéal, évidemment, serait que ce contrôle vienne essentiellement de l'Union africaine ou vienne des organisations régionales africaines.
Avec tous ces facteurs, est-ce que une monnaie unique pour l'Afrique arrangerait la situation ?
Alors, écoutez, là, je vais être très réaliste. Je n'y crois pas, même si je sais... que c'est un des projets importants de l'Union africaine et de la construction, évidemment, d'une Afrique qui serait une au niveau monétaire, parce que c'est un processus qui vient d'en haut. Or, les constructions monétaires, à un moment, c'est vrai, dépendent d'une décision politique forte, mais doivent être préparées davantage par des accords monétaires, par des formes d'union monétaire. Donc moi, ce que auquel je crois davantage, c'est qu'on parte d'abord des unions monétaires qui existent. Il y en a trois actuellement. Il y a la zone rand, il y a la zone BCEAO et la zone BEAC. Et qu'à partir de là, il y a des accords monétaires qui se fassent au sein de la CEDEAO avec les pays de l'UEMOA, qui se fassent au sein de la zone Afrique centrale autour de la CEMAC, et que progressivement, on ait les bases de construction d'une monnaie régionale, avec peut-être au départ plusieurs monnaies régionales, et alors après, une monnaie africaine. Je ne crois pas que dans l'histoire, en tout cas, de l'humanité, on ait eu des processus, sauf en situation d'impérialisme et d'une puissance extérieure qui impose une monnaie, un processus qui soit pensé d'en haut pour les accords monétaires. L'Europe s'est fait en 50 ans sur le plan de la création de la monnaie unique. Par contre, c'est un enjeu très important qu'il y ait des monnaies régionales et que progressivement ces monnaies régionales conduisent à une monnaie africaine. Mais dans un horizon, on va dire, de 30 ou 40 ans.
Roland Portella.
Tout cela nécessite aussi, je crois, ce qu'on appelle, sans que ça soit utopique, un développement endogène. La véritable problématique, c'est celle-là. C'est que nous sommes dans des économies en Afrique, malgré les progrès qu'il y a eu, sont des économies extraverties. C'est-à-dire que tout vient toujours de l'extérieur. On ne pense pas d'abord le développement endogène. C'est-à-dire qu'on fait une cartographie des potentiels de richesse, des potentiels de savoir locaux ou nationaux, et ensuite on construit avec des bailleurs de fonds. Je prends un exemple concret, c'est celui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit, je crois, 40% du cacao, la production du cacao mondial, mais ne génère à elle seule que 0,4% de ce commerce-là. Il y a quand même une asymétrie de marché, c'est scandaleux.
Oui, c'est pas normal.
Alors, à un moment donné, on a dit en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas que les mines, il y a aussi les matières premières agricoles, on dit il faut libéraliser. Voilà, on a fait la même base sur la caisse de stabilisation, il faut libéraliser toute la filière. Résultat des courses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très frappant. Moi, j'ai rencontré des paysans qui me disent que voilà, leurs revenus ont baissé d'à peu près 70%. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir un peu entre les filières export et puis production, c'est le tissu de PME qu'il y avait. Elles ont complètement disparu. Pourquoi? Donc là, il y a eu une injonction du FMI et de la Banque mondiale pour dire qu'il fallait plus qu'il y ait de régulation, alors qu'avant, il y avait un système de contrôle de prix qui était plus ou moins bien ajusté. Et aujourd'hui, donc, c'est la liberté du marché qui fait que les acteurs locaux n'ont pas cette puissance financière pour pouvoir justement, comment dirais-je, être maître du jeu. Et ce qui est le plus en plus aberrant, c'est que on dit même que certaines multinationales, non seulement elles prennent les récoltes pour les exporter, mais elles vont même faire de la production aujourd'hui. Donc il y a tout un tissu paysan, il y a tout un tissu de PME qui sont en train de disparaître.
Mais en même temps, cette réalité n'est pas propre à l'Afrique. On voit bien en Europe comment les agriculteurs notamment ont besoin de l'aide de l'État ou de l'Union européenne pour pouvoir grandir, non ?
Oui.
Philippe Hugon.
Il est certain que les agricultures du Nord sont des agricultures largement soutenues par les puissances publiques. Et la grande différence avec les agricultures africaines, c'est que les agricultures africaines ont été plutôt pressurées par les pouvoirs que véritablement soutenues. On a très peu de prix subventionnés aujourd'hui, de prix garantis. On n'a plus de stabilisation des prix. C'est un enjeu très important qui résulte en partie de la disparition des caisses de stabilisation. Et puis, dans certains cas, et c'est le cas aussi, hélas, de la Côte d'Ivoire, on a des pouvoirs souvent politiques qui font également du prélèvement sur les paysans. Puisqu'on sait très bien que le sud de la Côte d'Ivoire est en partie financé par les prélèvements sur le différentiel de prix entre le prix producteur cacao et le prix qui est vendu FOB sur le marché international. Donc on a tous ces ensembles qui font que l'agriculture africaine a été effectivement en retard par rapport à ses potentialités et qu'actuellement c'est un enjeu absolument majeur. Mais elle n'est pas encore soutenue fortement par les pouvoirs publics.
Oui. Kléber au téléphone. Allô?
Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs.
Bonjour.
Je suis très content parce que cette émission est vraiment intéressante. Cela étant dit, voyez-vous, moi je pense que le problème de l'Afrique, c'est un problème de gouvernance. Tant que ces messieurs qui sont à la tête de certains pays ne penseront pas à leur peuple, mesdames et messieurs, nous n'en sortirons pas. Tant que ces gens-là discuteront de contrats avec Elf Total, je ne sais trop quoi, en profitant de la situation, nous n'en sortirons pas. Alors, j'ai entendu un monsieur qui disait que le problème de la monnaie, il n'y croit pas. Mais cher monsieur, comment voulez-vous? Nous parlons d'un continent. Nous parlons pas d'un pays. Nous parlons de continent. Tant que les pays de la zone franc dépendront de la monnaie française, c'est-à-dire du franc CFA, comment voulez-vous que ces pays-là s'en sortent? Puisqu'ils ne gèrent rien du tout. Tout vient de l'extérieur. Tout est décidé à leurs insus. Comment voulez-vous que nous en sortions? Nous ne pourrons pas nous en sortir. Justement, moi je dis qu'il faudrait un États-Unis d'Afrique, justement, pour constituer une monnaie afin de sortir, afin de gérer nous-mêmes. Nos patrimoines, parce que toutes ces richesses qui foutent le camp, comment voulez-vous que nous en sortions? Tous ces jeunes Africains qui montent dans des bateaux, des boat people pour venir en Europe, c'est pas justement, parce que justement, ils ont faim, parce que justement, ces messieurs qui sont jusqu'à ce jour à la tête de ces pays, ne pensent qu'à eux. Comment voulez-vous un jour que l'Afrique voit clair? Chaque fois qu'on parle de quelque chose concernant l'Afrique, on nous dit « vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts ». Mais quand serons-nous prêts?
Merci, Kléber. Philippe Hugon, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réaction?
Donc je me suis peut-être mal fait comprendre. Il est évident que la monnaie africaine est un projet qui doit être porté par les acteurs africains.
Mais ça
me paraît évident. Mais pour y arriver, il faut des processus longs, qui sont des processus contradictoires, qui sont extrêmement difficiles. Il n'y a pas d'unité actuellement des pays africains par rapport à cette monnaie. On sait très bien que la conception fédérale qui est développée, par exemple, ou qui l'a été par la Libye ou par le Sénégal, n'est pas soutenue actuellement par l'Afrique du Sud. Donc je crois qu'il faut aussi avoir un projet politique, mais en même temps, bien entendu, avoir une volonté très forte et des acteurs, mais partir du réel. Moi, je ne suis pas du tout un défenseur de la zone franche. Je ne suis pas, bien entendu, c'est une zone héritée de la colonisation. Par contre, je pense qu'il y a actuellement des monnaies régionales en Afrique de l'Ouest. Il y a des monnaies régionales en Afrique centrale. Et ce que je pense, c'est que les banques centrales, de plus en plus autonomes, peuvent avoir des bases pour élargir leur monnaie et faire en sorte qu'il y ait des accords monétaires, peut-être avec d'autres unions monétaires au sein de la CEDEAO. Et je pense personnellement qu'il est plus réaliste aujourd'hui de considérer que la construction des monnaies africaines partira plutôt des régions africaines que véritablement d'un projet de 53 États africains, dont 52 sont membres de l'Union africaine et dont on sait les très grandes divergences sur le plan monétaire. Donc c'est simplement d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue réaliste, c'est évidemment pas par rapport au projet politique. Et que la monnaie, symbole de la souveraineté, soit progressivement et fortement appropriée par l'Afrique, bien entendu, c'est un combat qu'il faut évidemment mener.
Yves Kouamaïso.
Bon, là-dessus, j'ai 4 points. Alors, commençons par la monnaie, puisque ça semble être le qui chauffe le plus. Moi, je ne parle pas du tout de monnaie unique, hein, je parle de monnaie commune. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est qu'il y a toute une autre conception, qui d'ailleurs n'a pas été jusqu'à nouvel ordre acceptée vraiment par l'Union africaine. Mais je me bats pour ça encore. Deux, je suis entièrement d'accord avec le professeur sur le point qu'il faut des monnaies régionales ou sinon sous-régionales. Jusque-là, tout va bien. Là où le problème, et d'ailleurs sur le plan politique, on est en accord avec ce que veulent les chefs d'État. Là où le problème démarre, c'est qu'il faut une convergence monétaire. Et donc, quand on parle de convergence, il va falloir commencer à se dire, il y a un certain nombre de critères que tout le monde devrait pouvoir respecter dans la même zone. Et là, vous avez des différentiels relativement importants, ce qui ne gêne pas trop. Après tout, l'Union européenne est passée par le serpent monétaire pendant un certain nombre de temps. La réalité, c'est que, un, est-ce que les gens qui sont dans cette même zone sont des gens disciplinés sur le plan monétaire? C'est-à-dire que quand ils se sont engagés sur un texte qui vont respecter, par exemple, 5% de déficit de leur balance des paiements, est-ce qu'ils vont le respecter? Et s'ils ne le respectent pas, s'il y a ou pas sanction, est-ce qu'ils sont prêts à accepter ces sanctions-là? On s'est aperçu que, dans ces zones-là, ça ne marche pas. Et donc, on a créé un système extraordinaire qu'on appelle l'évaluation des pairs, où, bon, on accepte que ce soit le voisin ou les voisins qui viennent vous dire que vous avez mal agi, et quand on a fini de le dire, ce qui prend d'ailleurs du temps, il ne se passe rien. Il faut dire la vérité devant toutes ces choses que le NEPAD a mis en place, et alors on se met à s'attaquer au NEPAD alors que le NEPAD n'y est pour rien du tout. Il faut dire la vérité. Quelles que soient les grandes attaques, le NEPAD travaille très bien. Seulement, ce qu'il propose, les recommandations ne sont pas mises en œuvre. Encore une fois, on revient à ces chefs d'État. Donc, ça repart d'un autre problème de fond, de discipline monétaire au sein de cet espace-là. Deuxième chose très importante, les banques centrales. Je vais même jusqu'à parler de fonds monétaires africains, s'il faut au niveau sous-régional. C'est pas tout de se mettre ensemble. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui dégagent de la richesse pour pouvoir soutenir ceux qui n'arrivent pas à en dégager pendant un certain temps et que les choses se balancent plus ou moins sur le temps. C'est ça le rôle d'un fonds, en fait. En fin de compte, c'est d'aider celui qui est en difficulté pour que demain ça aille mieux. L'Europe essaie d'aider la Grèce actuellement, demain peut-être l'Espagne ou l'Italie. Donc, quand on met que des pauvres ensemble, vous voulez que ça se passe comment? Quand le grand Nigeria va décider sur le dos de tous les petits pays, Togo, vous voulez que ça se passe comment? Mais le Nigeria aura toujours raison.
Oui.
Donc, vous avez une tendance à dire, les gens disent, les chefs d'État, certains d'entre eux,
on n'en est pas encore là parce que...
madame, on est là parce que...
On en est là. Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une absence de leader, de leadership en fait en ce qui concerne l'Union africaine. On ne voit pas un leader ou des leaders qui émergent, qui arrivent à s'entendre et à impulser une dynamique, en tout cas une direction, une vision.
Non mais madame, ça existe. Vous savez, sous Conaré, ça existe. Et même maintenant, d'ailleurs, sous Jinping. Ne parlez pas de leader. Il n'y a pas Zorro en Afrique, hein. Vous savez, il n'y a pas...
Oui, mais un leader n'est pas forcément un Zorro. Un leader donne la voix et il fait consensus autour de lui.
Lisez bien les textes. Vous savez, la position sous le plan des idées, de la vision, elle est relativement claire en Afrique. Elle est vraiment claire dans beaucoup de domaines, d'ailleurs. Vous serez étonné que tous ces problèmes d'économie de proximité dont parlait Portela existent dans les textes. Nous les mettons pas en œuvre. C'est ça.
Mais pourquoi on les met pas en œuvre, justement?
Alors, on les met pas en œuvre. Alors, c'est pas seulement la notion de leader. Je pense qu'on a dépassé cette étape-là. Peut-être il y a encore 10 ans, oui, on a dépassé. Il y a une vision, oui. Même l'anticipation à la rigueur, ça existe, c'est peut-être pas officialisé, mais ça existe. Le vrai problème, c'est que pourquoi, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi tout le monde voit clair ce qu'il faut faire et on ne le fait pas.
Et pourquoi on ne le fait pas, justement?
Voilà, pourquoi on ne le fait? Alors ça vraiment un problème. Et on exclut les gens qui viennent dire la vérité. Parce que je vous dis, c'est ça, hein. Nous, on est complètement exclus de leur système, hein. Faut pas vous faire d'idée. Et je suis pas seul dans ce cas. On est nombreux en termes d'individuels. Parce qu'on n'est pas dans les rangs, on n'est pas ceci, on n'est pas dans tel club, on n'est pas dans telle, loge, etc. Bon, revenons au problème qui vous intéresse. Sous cette monnaie, encore une fois, on a parlé de plusieurs zones. Zone franc, zone rand, etc. Très bien. Mais au fond, pour que ces zones puissent fonctionner, il faut que vous produisiez de la richesse. C'est pour ça que je parle de capacité productive. Quelle que soit la façon dont on va tourner ce problème, que ce soit les matières premières, c'est qu'il faut arriver à faire que cette richesse-là soit produite de manière pérenne. Et là, il n'y a pas 10 000 solutions au fond de l'industrialisation, tout le monde l'a dit ici. Et il faut le dire, mais ça suppose des gens qui le font. Pourquoi aujourd'hui le coton du Mali, 2-3% de transformation? Pourquoi la tomate, la mangue, on n'a pas d'aujune aux mangues au Togo ou ailleurs? Voilà le vrai fond du problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans les projets on peut faire un grand hôtel au Togo et non pas une bonne usine qui transforme le tomate, le jus de mangue, etc., que tout le monde en boive? Et qu'en plus nous consommions local. Et c'est ça, je parle d'économie de proximité. Voilà, c'est ce déclic-là qui est en train de manquer. C'est pas que les gens ne le savent pas, hein. On sait très bien ce qu'il faut faire. C'est qu'on y a un blocage. Alors ce blocage, revenez-tu. Prenez les matières de construction, prenez le ciment. nous parle de ciment, c'est très bien. Mais le ciment, il y a tout un lobby derrière, plutôt occidental, qui préfère même que vos usines locales ne tournent pas et qu'on importe le ciment de l'extérieur, qui est moins cher, bien sûr, et qu'on le vende. Et qui c'est derrière pour le vendre, la commercialisation? Ce sont les amis, les parents, les dirigeants. Donc vous avez l'entrepreneur local qui passe pas. Aujourd'hui, on distribue du riz pour faire des campagnes électorales au Togo, faut dire la vérité. À 2010, soi-disant le prix, alors que ça vaut beaucoup plus cher. Donc les commerçants qui sont anticipés, qui ont acheté avant, mais ils s'en sortent pas. Voilà la réalité africaine. Et ça, si vous voulez le dire, ben on vous coupe la tête ou bien on vous empêche de parler. Voilà, on revient au problème de fond. Alors bien sûr, les pays occidentaux, ils ont beau dos de les attaquer. Bon, bien sûr, et ce chose qui ne vont pas non plus, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Il faut que l'Afrique, pour les nouvelles 50 ans qui vont venir, puisqu'on va parler du futur quand même, ils sachent qu'il faut investir dans le sous-sol. Que la corruption ait lieu, peut-être, mais que si les Africains avaient réinvesti, si Mobutu avait réinvesti en RDC, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il en est de même pour la plupart des dictateurs. Alors ça m'amène au dernier point rapidement qu'avait soulevé le professeur, c'est qu'en fait, l'histoire de Kimberley, les initiatives de Kimberley, de la communauté internationale qui contrôle, etc., je vous fais remarquer que le Tchad, le président du Tchad, le président de RDC, a dit carrément à l'ONU de sortir du pays, qui sont là depuis plusieurs années maintenant, et qu'ils ne voient pas tellement la situation de paix s'améliorer. Mais c'est lié aux matières premières. C'est-à-dire qu'en fait, ces initiatives de l'extérieur, c'est très gentil, la transparence, très beau. Mais en fait, quand on pousse au loin, qui c'est qui profite de ces diamants, finalement, de Centrafrique, ou du Congo, ou d'ailleurs, ou de ces matières premières? C'est que ces initiatives sont faites pour avoir la transparence au niveau local. C'est comme la démocratie. On veut la démocratie, oui, pour que ça puisse empêcher, en gros, la dictature sur place, mais pas pour faciliter les alternances politiques. Sinon, on aurait soutenu les partis d'opposition. Vous voyez, c'est tout un jeu très, très subtil qui est en train de se mettre en place, et qu'il faut aussi discuter, pour ne pas dire dénoncer, parce que à ce petit jeu, on s'aperçoit que finalement, l'ONU, qui avait une grande fonction, devient quasiment neutralisée, les acteurs locaux sont neutralisés, et du coup, plus personne, et les gens deviennent afro-pessimistes. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, et sincèrement, je vous dis, madame, ne cherchez plus cette histoire de leadership, cherchez plutôt le fonctionnement.
Le mécanisme qui fera en sorte qu'on passe aux actes enfin.
Exactement, exactement.
Alors, je vous entraîne en direct du monde, vous tous, donc Yves Ekwe Amaïso, Philippe Hugon et Roland Portella. Nous allons rejoindre notre correspondant là-bas, Christian Ejertati, qui parle des 20 ans de la libération de Mandela.
En direct du monde, depuis Johannesburg.
Bonjour, c'est Jenny Jeki. 9 jours pour changer l'histoire de l'Afrique du Sud. Quand le 2 février 1990, l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk annonce la libération prochaine de Nelson Mandela, personne n'a cru mieux entendre. 9 jours après, ce qui devrait être arrivé est arrivé. Mandela est libéré. Les Noirs sud-africains n'en croient pas leurs yeux. Nous sommes le 2 février 1990. Frédéric de Klerk, alors président de la République depuis 1989, prononce devant le Parlement la libération prochaine de Nelson Mandela. Ce discours marque le début du processus qui met fin à l'apartheid, une politique initiée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré de la prison Victor Verster de Cape Town. À sa sortie, il déclare la République sud-africaine un état arc-en-ciel et prône l'égalité dans toutes les communautés. En juin 1964, Nelson Mandela est condamné à une prison à vie pour trahison, alors qu'il lutte pour la reconnaissance des droits des Noirs sud-africains. Cette résistance lui coûte près de 10 000 jours en prison. Le 10 mai 1994, il devient le premier président élu démocratiquement en Afrique du Sud. Mais 5 ans plus tard, il se retire du pouvoir sans tambour ni trompette. À 91 ans, il reste toujours un leader et continue sa lutte contre le VIH-SIDA et dirige encore les activités de sa fondation Nelson Mandela pour les enfants. L'Afrique du Sud est en train de célébrer le 20e anniversaire de la libération de Nelson Mandela dans tous les coins et recoins du pays. Banderoles, t-shirts, casquettes, tous les moyens sont mis en exergue pour honorer le vieux Mandela. Les plus sensationnels vont jusqu'à décorer leur voiture à l'effigie de Nelson Mandela. Pour l'occasion, une exposition dédiée à Nelson Mandela a eu lieu au Musée National Zico au Cape Town. Et Jacob Zuma prononcera un discours à la nation depuis le Parlement dans la ville où Nelson Mandela a fait ses premiers pas d'homme libre après 27 ans de prison. Cependant, Nelson Mandela n'assiste à aucune cérémonie relative à l'événement. Depuis Johannesburg, Christian Ejertati, Africa numéro 1.
Alors c'était, moi je pense, une bonne chute, parce qu'en fait on a vu tomber un système, l'apartheid, hein, par la force, on va dire, d'un homme, mais d'un mouvement, l'ANC. On a vu ce système, l'apartheid, être démantelé. Donc c'est peut-être une bonne conclusion, peut-être que pour les 50 prochaines années, on pourra faire tomber ce système qui fait en sorte que l'Afrique, pourtant pourvue de matières premières, de richesses, puisse enfin décoller économiquement et que cette richesse soit partagée de façon équitable à toutes les populations africaines. Roland Portella.
Oui, je pense qu'il faudrait lutter contre l'apartheid social qui existe dans de multiples États africains. Et je crois, sans être utopiste, qu'il faut aller sur la nouvelle génération, qu'il faut éduquer les élites. Parce que très souvent, moi je le dis souvent, c'est mon credo, ce ne sont pas les populations qui sont à éduquer très souvent, ce sont les élites qui sont à conscientiser, qu'ils comprennent que, justement on a parlé des matières premières, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ils veulent l'affrontement ou ils veulent la paix? Parce que la question fondamentale est celle-là. Vous voyez ce qui se passe au delta du Niger? Il faut que ça se reproduise dans d'autres États. Je suis content de voir, par exemple, qu'un pays comme la Tanzanie a fait des progrès. La compagnie AngloGold, aujourd'hui, chaque année, déploie $1 million pour des infrastructures locales, hein, pour les populations, pour les hôpitaux, etc. Il faut aller vraiment dans ce sens-là, parce que c'est vraiment une question cruciale.
Philippe Hugon?
Oui, je crois que le message de Mandela est extrêmement important. Il a redonné la dignité, la liberté à la sortie de l'apartheid, qui était un système particulièrement inique, et donc il l'a fait en donnant une très grande force. Il y a un film de Clint Eastwood qui s'appelle Invictus, ça veut dire l'invincible. Et donc c'est cette force de caractère. Il faut savoir que l'ANC aussi a mis en place une constitution qui justement assure la séparation des pouvoirs. Et donc il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a une constitution qui reconnaît dans les droits de l'homme le droit à l'eau, le droit à l'alimentation. Ce sont toutes ces avancées qui doivent être porteuses d'un message très positif pour l'Afrique. Et donc l'enjeu dont on a parlé aujourd'hui, je crois que c'est un enjeu de combat porté évidemment par les Africains. Ça ne peut pas venir de l'extérieur, ça vient des forces internes, et il est évident que le message de Mandela est un message extrêmement fort par rapport à cette renaissance africaine dont a parlé Thabo Mbeki, mais qui concerne aussi la question des matières premières.
Yves Kwe Maïso.
Alors Mandela, c'est très bien, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, mais moi je suis au-delà de Mandela. Il faut quand même arrêter de toujours revenir en arrière. Mandela, c'était une époque. Il y a une nouvelle époque devant nous de 10 ans, 2010-2020, pour ne pas dire jusqu'à 50 ans au-delà. Il faut trouver un autre concept. Et je suis en train de lancer d'ailleurs un nouveau concept que j'appelle le solidarisme contractuel. Parce qu'il faut trouver un moyen d'arrêter et d'empêcher ceux qui ne sont pas responsables, dont parlait Portella, ces élites irresponsables, de continuer à signer des accords pour que d'autres viennent faire du riz en Afrique et les ramènent en Corée pour parler de ce qui s'est passé à Madagascar. Donc, il faut trouver un moyen que l'Afrique retrouve sa place dans la globalisation et localisation, puisqu'il n'y a pas d'économie de proximité, sans faire en sorte qu'ils passent leur temps à gérer avec des solutions de court terme ou de courte vue. Parce que ces solutions de court terme ou de courte vue empêchent l'anticipation. Et du coup, ce sont les égoïsmes, c'est du populisme des dirigeants qui prennent le dessus et qui empêchent même les structures sous-régionales ou continentales de fonctionner. Et à partir de ce moment-là, on aura une Afrique qui organise son lendemain de manière plus sûre que les lendemains incertains que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est lié à votre sujet, donc les problèmes de sous-sol, matières premières, minerais, etc., il faut revenir au développement des capacités productives. Que vous l'appelez entrepreneuriat, que vous l'appelez la responsabilité du système commercial et de production, prenez le mot que vous voulez. Mais il faut transformer les matières premières, surtout les plus petites. Écoutez, McDonald's fait bien des pommes de terre, pourquoi on ne ferait pas l'igname et la patate douce pour les populations locales, pour consommation locale? Il faut revenir à être responsable. Que veut finalement un Africain? Si sa liberté, c'est de souscrire à ce que le demande l'extérieur, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si sa liberté, c'est de s'organiser en interne, comme ont fait les Chinois d'ailleurs, comme ont fait d'autres pays comme Venezuela, pour que sa propre population ait tente d'abord de trouver une sécurité alimentaire, et alors, oui, peut-être demain sera mieux pour l'Afrique.
Je suis sûr que demain sera mieux pour l'Afrique. Merci Yves Kouyamaïso, merci Philippe Hugon, merci Roland Portella.